l'homme modifie son environnement naturel en aménageant le territoire. Il détruit parfois des milieux de vie. Cependant, il commence à prendre conscience des dangers qu'il fait courir à la planète et commence à restaurer des milieux qu'il a transformés. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre programme hebdomadaire Miroir de la Cité. Aujourd'hui, Miroir de la Cité met en exergue l'action de l'homme sur l'environnement, notamment l'impact négatif pour la protection de la nature. Radio Hosseri est allé à la rencontre de M. Mangdo. Il est ingénieur des travaux en sciences environnementales, par ailleurs chef service de l'information, de la sensibilisation et de la documentation à la délégation régionale de l'environnement de l'extrême nord. L'équipe de production est composée de Maxino à la mise en onde, à la supervision générale David Bayan. Dans vos délicates oreilles, je suis Prosper Djonga, le concepteur de Miroir de la Cité. Chers fidèles auditeurs de Radio Hosseri, les activités humaines fragilisent le sol. C'est pourquoi l'appauvrissement de la biodiversité, la destruction de la matière organique, l'érosion, l'étassement, la salinisation font partie des conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement. Face à cette situation, comment l'homme peut-il contribuer à la protection de son environnement? Écoutons la réaction de certains citoyens à ce sujet.
Moi, en tant que père de famille, pour la protection de l'environnement, à mon niveau, j'exige chez moi la collecte des ordures ménagères dans une poubelle et afin qu'on les mette dans les bacs à ordures Isakam. C'est ça mon exigence pour la protection de l'environnement à mon niveau.
Ma participation à la protection de l'environnement, je la fais en utilisant le foyer amélioré pour limiter la consommation du bois. D'ailleurs, je conseille la population à utiliser le foyer amélioré parce que c'est très économique et ça va nous aider à protéger l'environnement et la coupe du bois sera réduite.
Oui, moi en tant qu'infirmière, pour protéger mon environnement, j'utilise le protocole mis en place par l'hôpital, c'est-à-dire à la fin des soins, je mets la seringue utilisée dans la boîte à sécurité et les flacons cassables dans un petit seau. Et à la fin, un agent de service d'entretien va venir prendre ces objets, aller les mettre dans la fosse à incinération. Donc c'est de cette manière que je protège mon environnement.
On se rend compte que l'espérance de vie se réduit de plus en plus. Donc, il faut se référer à la protection traditionnelle, ou mieux, se référer à ce que nos aïeux le faisaient avant pour protéger l'environnement dans une région comme l'extrême nord aujourd'hui.
Moi, je suis tailleur. J'exerce dans le métier de tailleur depuis un certain nombre de temps. Bon, pour protéger l'environnement, j'essaie un peu de collecter les déchets des tissus et d'autres matériels qu'on utilise dans notre métier. Je mets à la disposition de Isakam. Comme ça, Isakam est une maison qui fait quand même dans la collecte, le traitement. C'est comme ça que moi je fais.
Amis auditeurs, s'engager pour la protection de l'environnement est une affaire de tous. Le tri des déchets dans nos ménages, l'utilisation des foyers améliorés, l'incinération des déchets dans nos hôpitaux font partie de la protection de la nature. Mesdames et messieurs, vous écoutez Miroir de la Cité. Comme nous l'avons annoncé en titre, nous sommes en compagnie de M. Mangdo, ingénieur des travaux en sciences environnementales.
Monsieur Mando, vous êtes ingénieur des travaux en sciences environnementales.
Oui, merci. Ingénieur des travaux en sciences environnementales, par ailleurs, chef de service de l'information, de la sensibilisation et de la documentation à la délégation régionale de l'environnement, protection de la nature et du développement durable de l'extrême nord à Maroua.
Ok, merci de nous recevoir chez vous.
C'est moi qui vous remercie plutôt de m'accorder ce temps pour vous parler de l'environnement.
Okay. Le thème du jour porte sur l'action de l'homme sur l'environnement. Le désert frappe avec insistance à la porte de la région de l'extrême nord. La cote d'alerte a été déclenchée depuis plusieurs années. Quelles sont les différentes actions mises en œuvre par les pouvoirs publics à l'effet de juguler l'avancée du désert sur cette partie du Cameroun?
Oui, merci. Il faut d'abord reconnaître que dans la région de l'extrême nord, le phénomène de la désertification est galopant. Nous savons que nous quittons du département du Logone-Chari jusqu'au niveau du Mayo-Kani. La désertification frappe à l'œil nu. Parce que vous voyez que partout dans les brousses, il n'y en a plus les arbres. Et les manifestations de cette désertification est visible. Nous savons que les ressources naturelles telles que les ressources forestières se font de plus en plus rares, les ressources en eau de plus en plus rares et l'agriculture qui ne donne plus comme avant parce que les terres sont devenues dégradées, d'autres infertiles même, stériles, qui ne produisent même plus. Et par ailleurs, vous trouvez que certaines terres ne produisent même plus les herbes. Il n'y a même plus d'herbes sur cette terre. Et la désertification ne fait que continuer à avancer avec des phénomènes, avec des manifestations bien palpables. Suite à cela, le gouvernement du Cameroun a lancé depuis 2008 l'opération Sahel vert pour inverser la tendance de dégradation de terres. Donc, l'objectif du Sahel vert, c'était de restaurer les terres dégradées, restaurer la biodiversité et sensibiliser également la population. Restaurer les terres à travers le reboisement, à travers la vulgarisation, promotion de foyers améliorés. Et aux côtés du Sahel vert, il y a d'autres actions également, comme par exemple le programme, un programme du lac Tchad appelé ProDebalt, programme de développement durable du bassin du lac Tchad, qui a commencé aussi de 2010 à 2017, et poursuivi par le PresiBalt également, jusqu'à nos jours qui est encore en cours. Et le ProDebalt faisait également dans la restauration des terres pour inverser la tendance de dégradation des terres à travers le reboisement, les ouvrages anti-érosifs, la reforestation et beaucoup d'autres actions qui concourent à lutter contre la désertification. Et en plus de ce programme, il y a également la GIZ qui accompagne le ministère des Forêts, de la Faune, le ministère de l'Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable, et interviennent dans la restauration également des terres dégradées, à travers également le reboisement, en appuyant les particuliers également dans la plantation d'arbres, et interviennent également dans la régénération naturelle assistée. Et aux côtés de cela, il y a également d'autres ONG, associations qui œuvrent également dans le reboisement, dans la restauration des terres, la restauration des sols. Donc la liste est vraiment très longue. Et c'est pour dire que le pouvoir public n'est pas resté main croisée. Le pouvoir public est en train de faire, mais il faut que ça soit continuel. Parce que la désertification, vu la croissance démographique de la population de l'extrême nord, vous savez que c'est la croissance démographique qui s'accompagne de la destruction de l'environnement. Donc plus la population s'accroît, il faut d'autres actions pour multiplier les activités soit de régénération, soit de restauration pour les besoins de la population. Et vous savez que la population a besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, la nature doit subir. Pour que la nature ne subisse pas beaucoup, il faut plus d'actions, soit du reboisement, soit de restauration des terres, pour inverser cette tendance ou bien pour répondre aux besoins aussi de la population.
Ok, merci M. Mando. On constate une recrudescence des inondations ces deux dernières années. Comment expliquer ce phénomène?
Oui, vous savez que les inondations, c'est lié au changement climatique. Ça veut dire que les changements climatiques sont là. Les pluies peuvent venir aussi avec une grande vitesse. Les précipitations, quand on les attend, peut-être en juin, juillet, on ne voit pas les précipitations. En un laps de temps, peut-être au mois d'août, il pleut abondamment, de telle sorte que la capacité de rétention d'eau ne peut pas. Et quand il y a suffisamment d'eau, et vous trouvez également qu'avec l'incivisme de la population, surtout dans la ville de Maroua, les passages d'eau, les caniveaux sont bouchés par l'incivisme de la population. Donc, là où l'eau devait passer, on trouvait que tout est bouché et l'eau va n'importe où. Et il y a aussi la construction anarchique, que les gens construisent aussi sur les bas-fonds. Les gens construisent n'importe où. Et cela bloque le passage d'eau. Et vous savez que si le passage d'eau est bloqué, ça veut dire que l'eau passe n'importe où. On parle d'inondation. Vu que la quantité d'eau est assez élevée et que les passages d'eau sont également bloqués, on parle suffisamment de l'inondation. Et du phénomène naturel également. Vous savez que les cours d'eau sont ensablés. Par exemple, nous allons au niveau de Maga jusqu'au niveau du lac Tchad. Les cours d'eau sont ensablés. Donc, ça veut dire que la quantité d'eau qui devait entrer soit dans le lac ou bien dans les mares, cette quantité ne va pas tout arriver là-bas. Parce que l'eau va trouver que son lit est déjà ensablé. Donc, l'eau va faire seulement demi-tour. On va parler de l'inondation, parce que la quantité de cette eau ne peut plus rester dans le lit et ne peut plus circuler normalement. Donc, c'est dû au phénomène de changement climatique.
Ok. Il y a une prolifération des plastiques dans la ville de Maroua et ses environs. Quelles sont les conséquences de l'usage abusif des sachets en plastique sur l'environnement?
Oui, les conséquences de l'utilisation de ces emballages sont nombreuses. Parce que, d'abord, vous savez que le gouvernement du Cameroun a pris acte de ces conséquences depuis 2012. Et le ministre de l'Environnement et celui du Commerce ont signé un arrêté conjoint interdisant la production de ces emballages non conformes au Cameroun, la détention, la circulation, la commercialisation. Et en 2014, il y a donc eu la répression jusqu'à aujourd'hui contre ces emballages non conformes. Les emballages non conformes, ce sont des emballages à usage unique, dont le micromètre est inférieur à 60 microns. Donc, ce sont ces emballages qui sont interdits. Ce sont des emballages non conformes, non autorisés. Et ce sont ces emballages plus qui causent des dégâts. Parce qu'une fois que vous utilisez, ça va dans la nature et ça s'accumule dans la nature, dans les points d'eau, dans l'air même, on le voit souvent flotter. Et même dans les puits à ciel ouvert, si ça flotte dans l'air, ça peut entrer aussi dans les puits à ciel ouvert. Et quand c'est donc en quantité dans la nature, les animaux peuvent même utiliser. En consommant ces plastiques, ça peut créer des problèmes aussi aux animaux. Ça peut créer des problèmes à nous-mêmes parce que si c'est en quantité, les gens peuvent brûler à l'air libre et ça nous crée d'autres problèmes. Parce que la fumée que va dégager ces plastiques qu'on brûle va nous provoquer certaines maladies, maladies pulmonaires, des cancers et beaucoup d'autres choses. Et vu ces plastiques dont je vous parle, à usage unique, vous savez que les femmes qui préparent surtout les aliments comme les coquilles, comme les mains, elles emballent avec ce plastique et préparent leurs mains avec ce plastique. Étant chaud, le plastique peut entrer, les matières du plastique peuvent entrer dans la nourriture et infectent cette nourriture. Et cela nous cause des cancers. Donc c'est très dangereux. Les conséquences de ces plastiques sont énormes. Et vous voyez que même au niveau de l'agriculture, quand les plastiques sont en prolifération, ça sera enfui dans le sol. Et une fois enfui dans le sol, pour se décomposer, c'est tout un problème. Ça peut prendre du temps. Les experts parlent même de 400 ans pour que le plastique enfui dans le sol se dégrade. Et vous voyez que ce plastique enfui dans le sol peut polluer autour de lui sur un rayon d'au moins peut-être un mètre. Et ça ne favorise pas l'infiltration. Vous voyez donc que les conséquences sont énormes. Et dans les mares, vous voyez que quand les plastiques sont en quantité dans une mare, ça forme un tapis en bas qui ne favorise pas également l'infiltration. Et ça fermente l'eau. Et ça nuit à la biodiversité aquatique. Donc voilà autant des conséquences de ces emballages plastiques à usage unique. Je parle plus d'emballages à usage unique parce que les autres types d'emballages autorisés, ces emballages, on peut les réutiliser. Et cela ne cause pas trop de dégâts comme les emballages à usage unique.
Ok. Quel conseil pouvez-vous donner aux populations de la ville de Maroua ou de la région de l'extrême nord, des populations qui ne peuvent s'en passer du sachet en plastique?
Bon, ce qui est d'abord, vous savez que les plastiques à usage unique, non autorisés, ce sont des plastiques interdits par le gouvernement du Cameroun. Ce sont des plastiques qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas produits au Cameroun. C'est parce que la population ne veut pas reconnaître que ces plastiques ne sont pas au Cameroun. La population pouvait donc prendre conscience de la dangerosité de ces plastiques et de dire non à l'utilisation de ces plastiques et d'utiliser plutôt les plastiques autorisés, qu'elles peuvent utiliser ça plusieurs fois. Donc, par exemple, les plastiques de 25, de 50 francs, si vous avez déjà ce plastique, vous pouvez faire le marché avec ce plastique pendant plusieurs temps. Que vous allez au marché, vous payez de l'allumette, on vous met ça dans un plastique. Vous payez le sel, on vous met ça dans un plastique. Vous payez le cube, on vous met ça dans un plastique. Vous rentrez avec une quantité de plastique, alors que toutes ces choses pouvaient être mises dans un seul plastique de 25. Donc vous voyez que ça, c'est d'une part, c'est notre responsabilité d'accepter ces plastiques que le gouvernement a déjà interdits. Et il y a aussi que quand vous allez au marché, préparez-vous avec soit votre sac pour contenir vos produits que vous allez acheter au marché. Surtout, il faut dire non à ce plastique à usage unique, dont on connaît déjà les conséquences, que les conséquences sont énormes.
Ok, le soleil est une source d'énergie disponible. La région de l'extrême nord est-elle en droit de se féliciter de cette manne du ciel?
Oui.
Comment cette population peut-elle en profiter?
Vous savez que aujourd'hui, le soleil à l'extrême nord, le soleil a une intensité plus forte. Donc, la population de l'extrême nord pouvait bien profiter de ce soleil. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des panneaux solaires que les gens utilisent. Et bien sûr que ce n'est pas encore plus répandu dans la région, mais certains utilisent déjà bien ces panneaux solaires. Et ça a un résultat. Parce que plus vous utilisez ces panneaux, plus ça vous réduit la consommation également de l'électricité. Parce que si vous utilisez ces panneaux, la quantité d'électricité que vous utilisez, ça sera donc réduit. Et ça va vous permettre d'économiser aussi un peu. Et dans les zones rurales qui n'ont pas accès à l'électricité, ils peuvent utiliser ces panneaux et c'est rien que du soleil. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, je trouve donc que c'est une bonne chose pour la population de la région de l'extrême nord d'utiliser les ressources soleil pour produire l'électricité.
Ok, on constate que l'accès à l'énergie solaire reste encore hors de portée pour le paysan. Quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics pour encourager l'utilisation de ce type d'énergie dans notre quotidien?
Il faut reconnaître que l'usage de l'énergie solaire, ce n'est pas à la portée de la population. Moi, je trouve que c'est faux. Hein. Parce que vous voyez aujourd'hui que dans les magasins des outils ou bien des plaques solaires, vous voyez qu'il y a toute quantité. La population, que ce soit rurale, que les populations diminuent, ou quelle population, chacun aura sa part. Parce qu'aujourd'hui, je vois certaines plaques solaires, qu'on parle de 20 000, de 30 000, de 10 000. Donc, à chacun ses moyens. Chacun peut trouver son compte et ça peut bien servir à la population. Sauf peut-être les gens qui veulent faire la consommation grandiose. Par exemple, le réfrigérateur, les fers à repasser et autres. C'est ça peut-être qui va causer problème. Sinon, si c'est l'éclairage, je pense que c'est à la portée de la population.
Ok, parlons un peu de l'action des femmes sur l'environnement. Les femmes de la région de l'extrême nord cuisinent en général au feu de bois. Quelles sont les actions prévues pour réduire l'utilisation du bois de chauffe par les ménagers?
Oui, vous savez que ici, dans la région de l'extrême nord, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, les femmes utilisent plus le bois de chauffe. Parce que, bien sûr qu'il y a les gaz domestiques, il y a les plaques chauffantes, il y a le pétrole et autres, mais les personnes qui utilisent ces moyens sont peu réduits. Vous voyez que dans certains ménages, on utilise à la fois le gaz domestique et du bois. Donc, l'utilisation du bois, vraiment dans la région de l'extrême nord, ça peut aller dans les 95% à 80%. Et pour cela, vous voyez que cette ressource se fait déjà rare. Pour réduire donc cette consommation, je vous avais parlé à l'entame que le volet Sahel vert, il y avait aussi la promotion de foyers améliorés. La promotion de foyers améliorés, le foyer amélioré, c'était donc pour réduire la consommation de ce bois. Donc, si une femme utilise normalement le foyer trois pierres traditionnel, avec le foyer amélioré, la femme peut réduire sa consommation du bois d'ordre de 20 à 50%. Et si la consommation du bois est réduite, Ça veut dire que la pression sur les ressources forestières est aussi réduite et ça préserve l'environnement. Donc, que chaque femme, que chaque ménagère fasse l'effort d'utiliser le foyer amélioré. Même si ces femmes n'ont pas la capacité d'aller chercher le foyer amélioré au marché, elles peuvent améliorer leur foyer en construisant simplement leur foyer et ça peut améliorer la cuisson, ça peut améliorer leur consommation du bois.
Les paysans de l'Extrême-Nord utilisent massivement des engrais chimiques, des fertilisants du sol, des désherbants qui, pour la plupart, sont interdits dans l'espace de l'Union européenne. Comment expliquez-vous qu'un produit chimique interdit en Europe, parce que déclaré cancérigène, soit commercialisé ici chez nous et utilisé par les paysans?
Oui, vous savez que les produits chimiques, les pesticides, que nos populations utilisent dans la région de l'Extrême Nord, au Cameroun en général, le gouvernement du Cameroun a pris acte déjà de ce phénomène. L'année 2020, le ministère de l'Environnement a organisé des ateliers de sensibilisation, d'information dans certaines régions du Cameroun. Parmi ces régions, il y a aussi la région de l'Extrême Nord, pour attirer l'attention de la population sur l'utilisation abusive de ces produits chimiques. Et vous voyez que ces produits chimiques ont des conséquences graves sur l'environnement et sur la santé humaine. Aujourd'hui, vous voyez que les champs qui produisaient ne produisent plus en quantité parce que ces produits chimiques ont détruit ces champs, ont détruit la matière organique, on détruit la microfaune de ces sols. Et les sols sont devenus compacts, ne permettent plus l'infiltration. Et les espèces qui étaient utiles pour nos champs sont déjà toutes détruites. Maintenant, c'est des espèces envahissantes et nuisibles qui se multiplient dans nos champs. Et cela nous crée des problèmes que vous pouvez pulvériser ces espèces avec ces produits et ça ne peut pas détruire ces espèces. Donc, vous voyez que les produits chimiques nous ont causé énormément de problèmes. Vous voyez aujourd'hui que quand nous préparons avec le mil que nous avons pulvérisé le sol, vous voyez que la qualité même du mil, la qualité du repas n'est pas bien comme avant. Vous préparez le repas le soir. Le lendemain, vous trouvez que c'est peut-être déjà en décomposition. Ça veut dire que les produits chimiques ont déjà transformé nos produits et nous infectés déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils souffrent de telle maladie. Donc, à cause de ces produits chimiques qui est en train de nous réduire, en train de nous décimer à petit feu, que les gens jusqu'à présent ne comprennent pas. Et moi, je trouvais donc que ça rentre aussi dans la paresse de la population. Parce qu'avant, nos parents n'utilisaient pas ces produits chimiques. Et nos parents mangeaient toujours. Et aujourd'hui, vous pensez que le sourga que nos parents faisaient avant, aujourd'hui, dans certains villages, ça n'existe plus. Parce que les produits chimiques ont déjà pris la place de cette solidarité. Donc ça réduit la solidarité même des populations au sein des villages. Donc, pour dire vrai, les pesticides ont plus de conséquences que d'avantages.
Ok, les produits chimiques utilisés dans le cadre de la culture du coton appauvrit progressivement le sol. Quelle appréciation faites-vous de cette situation?
Oui, vous savez que la saut de coton a utilisé ces produits pendant longtemps. Et la saut de coton a ses surveillants de culture. Malheureusement qu'aujourd'hui, les gens ne respectent pas les prescriptions faites par la saut de coton. Si vous prenez ces produits à la saut de coton vous met les surveillants de culture et vous donne les indications que faites ceci, faites ceci, faites ceci. Et une fois que vous prenez ces produits, vous allez seulement mettre le dosage que vous voulez, vous allez seulement pulvériser sans la présence même de surveillants de culture. Et ce qui n'est pas conseillé. Sinon, pour la sorte de coton a pris des mesures en mettant à la disposition de la population. Vous voyez que dans chaque zone de coton, il y a des surveillants de culture qui contrôlent, qui sont à la disposition de la population. Donc, c'était que quand vous voulez donc utiliser vos produits chimiques, le surveillant de culture vous donne les conseils à faire. Le conseil à utiliser vos produits, à ne pas faire le surdosage, à ne pas faire ceci. Mais comme nous ne respectons pas, l'erreur ne revient plus à la sorte coton parce que cela revient de notre inconscience de ces produits.
Donc, si je comprends bien, vous encouragez l'utilisation des produits chimiques dans le cadre de la culture du coton?
Dans le cadre de la culture du coton, je vous ai dit bien, il y a des produits homologués. Les produits homologués, ce sont des produits qui sont contrôlés par le gouvernement, contrôlés par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. Ces produits sont homologués et autorisés. Et vous voyez aujourd'hui que la plupart des produits que notre population utilise dans la région de l'extrême nord, ce ne sont pas ces produits. Ce sont des produits qui viennent d'ailleurs, qu'ils trouvaient d'ailleurs moins chers et qu'ils ne maîtrisent même pas le dosage. La composition chimique même qu'ils ne maîtrisent même pas. Il y a d'autres même qui ont surnommé soit les super machettes ou bien de quoi, je ne sais. Alors qu'il y a des produits homologués. Et c'est ces produits homologués que la sorte coton utilise. Quand je vous parle, vous prenez 10 personnes qui utilisent les produits chimiques. Les gens qui utilisent les produits homologués peuvent être peut-être 2 ou 3. Parce que la plupart de ceux qui sont au marché, ce sont plus des produits qui viennent de l'autre côté.
Ok, quelles sont les mesures alternatives proposées par votre ministère en dehors de l'engrais chimique?
Oui, en dehors de l'engrais chimique. Aujourd'hui, vous voyez que si vous mettez de l'engrais chimique, ça veut dire que c'est chaque année que vous allez mettre de l'engrais chimique. Pourtant, si c'est l'engrais organique, par exemple les bouses de vache, les composts et l'engrais biologique, vous utilisez les bouses de vache, ça peut faire 3 à 4 ans. Vous cultivez bien votre champ et vous avez le rendement. Alors que le produit chimique, comme l'engrais chimique, vous êtes obligé d'utiliser ces produits chaque année. Donc, le ministère conseille à la population de restaurer nos terres. Il faut restaurer les terres, ça veut dire que il faut utiliser le compost, il faut mettre les ouvrages anti-érosifs. Pas des ouvrages anti-érosifs, ça veut dire qu'on peut mettre les bandes enherbées, on peut mettre les diguettes, on peut mettre les demi-lunes, on peut mettre les cordons pleureux dans les zones de montagne. Donc, aux côtés de cela, vous pouvez mettre donc vos composts. Parce que si vous mettez les composts et que sans aménagement, je suis sûr que dès les premières pluies, vos produits, vos composts vont partir dans les champs des autres. Donc, si vous arrangez votre champ, vous aménagez avant le temps et vous mettez le compost, ça va rester parce que ces ouvrages anti-érosifs vont bloquer la matière organique. Et il faut associer dans les champs, il faut associer de l'agroforesterie, associer les arbres au champ. Parce qu'il y a des espèces qui fertilisent le champ.
Comme quelle espèce par exemple?
Il y a les acacias. Les acacias, acacia nilotica, acacia albida, acacia sénégal. Il y a le lessena. En tout cas, il y a beaucoup d'autres espèces qu'on peut utiliser dans les champs, qui peuvent bien fertiliser également le champ et peuvent servir également aux animaux. Ça peut maintenir les animaux parce que les feuilles constituent aussi du fourrage pour le bétail et fertilisent également le sol parce que ça fixe de l'azote. Et les ouvrages anti-érosifs, C'est ça que nos populations devaient utiliser maintenant dans les zones rurales. Parce que ça pouvait beaucoup les aider, non seulement dans la restauration des sols, mais également dans la vie sociale. Si vous mettez les bandes enherbées avec certaines espèces d'herbes, vous pouvez récolter ces herbes pour aller faire soit du séco, soit de la paille pour la toiture. Si c'est les haies vives, le bois, vous avez ça sur place. Si vous utilisez les bracarias comme culture sous couvert végétal, ça peut servir aussi de fourrage pour le bétail. Vous voyez que en faisant ces ouvrages anti-érosifs, vous allez plus gagner même. La population peut plus gagner.
Ok, pour sortir de notre entretien, avez-vous des conseils à formuler à l'endroit des populations de la région pour la préservation et la sauvegarde de notre environnement?
Oui, vous pensez que la sauvegarde de l'environnement, c'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte pour sauvegarder l'environnement. Au niveau de la population a sa part de responsabilité à jouer pour préserver l'environnement. D'abord, ils peuvent commencer par utiliser les arbres qui sont déjà sur place, les utiliser de manière durable. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas abattre les arbres, ils doivent élaguer ces arbres. Et ça, c'est la gestion durable des arbres. Et la population doit penser à planter les arbres. Ne serait-ce qu'un arbre chaque année, c'est déjà quelque chose. Et dans les zones rurales, pour ceux qui ont de l'espace, ils peuvent créer leur propre forêt. S'ils ont déjà leur propre forêt, ça veut dire que le bois ne devient plus difficile. Ils peuvent même vendre le bois. Ils peuvent avoir des perches. Ils peuvent avoir le bois de chauffe. Donc, ça peut beaucoup les aider. Et ils doivent penser à aménager leur champ. Aménager leur champ avec les ouvrages anti-érosifs, tels que je parle des bandes enherbées, les bandes boisées, les diguettes, les demi-lunes. Même les haies vives doivent penser à le faire, surtout dans les zones rurales. Et les femmes doivent utiliser les foyers améliorés. Ne doivent plus utiliser les foyers traditionnels d'avant. Que les femmes mettent trois pierres, commencent seulement à préparer, et ces foyers font la perte de l'énergie et utilisent abusivement du bois. Donc chaque femme utilise le foyer amélioré à son niveau. Et au niveau de l'utilisation des pesticides, il faut que nos populations réduisent l'utilisation des pesticides, qu'ils n'utilisent plus de manière anarchique comme maintenant. Vous voyez que pendant dans un espace, pendant une année, vous pensez que le produit peut passer 2 à 3 fois. Les premières semis, on peut pulvériser, et que ça ne donne pas, on resème, on pulvérise encore, et après, dès que les herbes ont une certaine taille, ils peuvent encore pulvériser 3 fois de suite, parce que c'est de manière anarchique. Donc, que la population respecte les mesures. Et l'utilisation du plastique. Comme le gouvernement a déjà pris des mesures pour interdire les plastiques à usage unique, les plastiques blancs de 25-25, les plastiques noirs, les plastiques rayés, que la population respecte ce plastique, la population dise non à l'utilisation de ce plastique. Parce que ces plastiques ne sont pas du Cameroun. Ces plastiques viennent d'ailleurs. Et nous avons accepté ce plastique qui nous détruit, qui détruit nos sols et qui détruit nos animaux. Que la population prenne conscience de ce plastique et ne l'utilise pas de manière abusive également.
Ok, merci Monsieur Mando d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
privilégier les sacs réutilisables, éviter les produits jetables en plastique qui ne respectent pas les normes prévues par la loi camerounaise, l'utilisation des foyers améliorés qui permet de réduire la consommation abusive des bois de chauffe sont quelques petits gestes qui permettent de limiter la destruction de notre environnement. L'équipe qui nous a tenus en haleine était constituée de Maxino à la mise en onde et David Bayan qui assurait la supervision générale. À la présentation, j'étais Prosper Djonga, le concepteur de Miroir de la Cité. Merci de rester sur la 105.5, la fréquence qui rassure.